Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. À notre époque, la science n'a pas la place qu'elle mérite dans l'espace public. Peut-être plus que jamais, et pas seulement aux États-Unis, l'apport décisif de ces travaux est contesté, voire nié. Pour modestement faire face à cet obscurantisme grandissant, nous allons échanger avec une chercheuse. Nous complétons ainsi le rendez-vous trois fois par semaine sur la grille de divergence avec l'émission Allume la science, UM comme Université de Montpellier. Florence Voller, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous présente. Vos études à Montpellier vous ont conduit à un doctorat d'écologie. Et ensuite, première étape dans votre parcours professionnel, la Corse, pendant une dizaine d'années, dans deux sites de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et puis voilà, une trentaine d'années maintenant, vous êtes revenu à Montpellier, vous êtes chargé de recherche à l'INRAE, plus particulièrement au CEFE, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le plus grand laboratoire sur l'écologie en France, m'avez-vous dit, avec des chercheurs du CNRS, de l'IRDI, de l'Institut Agro, de l'Université et autres. Vous êtes également engagé, nous allons en parler, dans le mouvement scientifique en rébellion. Quel est l'objet de vos recherches? Quelle est la raison d'être de scientifique en rébellion? Ce seront les deux parties de cette émission. Mais d'abord, une première question pour faire lien avec les thèmes que nous allons aborder. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans la recherche scientifique? Il y a eu un choix, on imagine, dans vos études supérieures et à la sortie de ces études. Pourquoi cette orientation?
D'abord, merci Alain de l'invitation. Pour la recherche, pour moi, je ne me suis jamais posé la question. C'était absolument évident.
Ça allait de soi.
Ça allait de soi, puisque c'est un métier où on est sans arrêt, la curiosité ouverte, et on apprend sans arrêt. On essaye de repousser un tout petit peu les frontières du connu, et je trouvais ça stimulant. Je pensais qu'on n'allait jamais s'ennuyer, sans compter aussi que... Plus largement, la recherche en écologie ou en agronomie me paraissait être absolument fondamentale pour les enjeux de société au niveau planétaire notamment. Voilà.
D'accord, dans un esprit de curiosité.
Absolument, oui.
Très bien. Alors avant que vous le savez que nous parliez de vos activités, racontez-nous d'abord votre Montpellier, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors donc, Florence Voller, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attachée et que vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, je voudrais parler d'un lieu qui existe depuis très longtemps, environ 45 ans maintenant. C'est un lieu que j'ai découvert quand je suis arrivée comme étudiante à Montpellier, donc qui avait commencé avant. C'est un lieu pour moi qui représente un peu l'âme de Montpellier, un peu comme les autres lieux de culture que sont les librairies, les musées, les théâtres, etc. Et qui, quand je suis arrivée, surtout venant de Corse, où c'est surtout la nature qui est belle, mais il ne se passait pas grand-chose, j'ai eu un coup de foudre. Et donc, il s'agit en fait d'un cinéma, le cinéma Utopia, qui reste toujours très actif, très vivant, très chaleureux, très accueillant, qui a une programmation avec des films du monde entier et qui, à côté de la fac de lettres, là, est très bien positionné pour attirer un large public et surtout qui fait aussi des débats, qui est engagé. Et j'allais régulièrement à Paris, au Quartier Latin, et je me disais, mais c'est pas la peine d'aller à Paris, on a tout à Montpellier. À l'époque, il y avait 5 cinémas d'art et d'essai, il y en a toujours 3 très actifs. Et voilà, pour moi, c'est des coups de foudre permanents, de rencontres avec les artistes du monde entier. Je remercie Montpellier de nous offrir cette possibilité.
Très bien, tous à l'Utopia, vu sa programmation. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Florence Voller, dans quel champ général de la recherche travaillez-vous et plus précisément, quel est l'objet de vos travaux ?
Alors, donc, moi, je travaille en écologie, donc l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement, et plus particulièrement en écophysiologie, c'est-à-dire la physiologie des êtres vivants, la façon dont ils fonctionnent par rapport à leur milieu dans lequel ils vivent. Et alors, je travaille notamment, et c'est mon sujet depuis le début, je me suis intéressée aux espèces végétales, à des espèces végétales qui sont peu connues, qu'on a tendance à mépriser ou ignorer. Et je veux dire, je travaille sur les espèces herbacées, donc les toutes petites espèces qu'on foule sous nos pieds dans les parcs.
Ce n'est pas les plus spectaculaires.
Exactement.
Ce n'est pas celles qui font nécessairement de super photos dans les magazines grand public.
Exactement.
Mais ça constitue une partie, bien sûr.
Alors, voilà, malgré tout, même si elles sont modestes et petites de taille, elles ont un rôle fondamental et surtout, elles sont très importantes au niveau de la planète puisqu'elles couvrent 40% des territoires émergés.
Ah, c'est énorme.
Donc, si on met à part l'Antarctique et l'Arctique, les deux pôles, donc 40%. C'est-à-dire, là, je vais parler des prairies, des parcours. Alors, il y a différents termes selon les pays, on les appelle Pampa en Argentine ou Veldt.
Steppe peut-être.
Steppe, absolument, Veldt en Afrique du Sud. Donc, ce sont vraiment des surfaces, des communautés qui couvrent de grandes surfaces dans le monde, qui ont énormément de rôles, de fonctions, en particulier pour la biodiversité, puisqu'on a énormément d'herbivores. Ils permettent de protéger les sols, de l'érosion et d'améliorer les sols avec la matière organique. Et aussi, ils fixent le carbone. De façon assez importante et c'est tout à fait c'est pas du tout négligeable et on pense sans arrêt aux forêts, aux arbres pour stocker le carbone, mais en fait dans tout ce qui est prairie, parcours, je dirais prairie à partir de maintenant, on a énormément de carbone qui est fixé dans les sols, donc c'est très important. Donc en plus, ce sont des milieux qui servent à l'alimentation des troupeaux. Alors, ça constitue la base
de l'alimentation
l'alimentation de nombreux animaux dans le monde.
Animaux sauvages ou animaux d'élevage.
Exactement, les deux. Et donc, c'est la base de l'économie de millions et de millions de personnes et de communautés humaines dans le monde entier.
Donc, c'est une espèce d'univers immense.
Hein. Alors, voilà. Et donc, en anglais, ça s'appelle des grasslands. Ça veut dire les zones où on trouve des graminées. Parce qu'en fait, ces prairies, ces parcours, ont comme espèce dominante des graminées. Alors, je voudrais dire un petit mot sur les graminées, parce que tout le monde les connaît, mais on ne connaît pas forcément le terme. Donc, les graminées, c'est un ensemble d'espèces qui comprend 12 000 familles. Donc, c'est très, très varié.
Ah, c'est énorme.
Très, très varié. Et donc, qu'est-ce que sont les graminées ? C'est ces espèces herbacées qui ont des tiges creuses, qu'on appelle des chaumes en général, qui ont des feuilles longues avec des nervures parallèles. Ça, c'est tout à fait particulier. Et donc, qui ont aussi des fleurs qui sont comprises dans des épillets, des épis, et qui donc des fleurs, l'organe reproducteur n'est pas coloré. Pourquoi ? Parce que ce sont des espèces qui sont pollinisées par le vent, donc pas par les insectes. Et donc là, qu'est-ce que vous trouvez comme espèce ? Vous trouvez notamment tout ce qui est céréales. Donc ces graminées ont une valeur économique, une importance économique majeure. Ce sont les principales cultures pour l'alimentation de base, le riz, l'orge, le maïs, etc. C'est aussi donc des espèces pérennes souvent qui sont espèces fourragères. Donc vous avez ce qu'on appelle le raie gras, vous en avez peut-être entendu parler, le dactyle, la fétuque, donc qui servent dans les golfs, les parcs, les jardins, partout, il y a de ces petites espèces. Il y a aussi quelques espèces pérennes, ligneuses, comme le bambou. Le bambou est une graminée qui a aussi une valeur importante économique pour la construction, par exemple, dans certains pays. Et donc, la question que vous me posez, à savoir sur quoi je travaille, finalement, la question que j'ai essayé de travailler pendant toute ma carrière, c'est comment ces petites espèces herbacées, qui ont l'air très modestes et très, très rudimentaires, très, très frustes, peuvent supporter des sécheresses estivales très sévères. On imagine que les arbres vont chercher l'eau et s'en sortent comme ça, avec des systèmes racinaires très, très profonds. Mais pour que ces espèces herbacées supportent des sécheresses très sévères, il faut qu'elles aient mis en place des adaptations physiologiques, donc particulière. Et ce n'était pas trop étudié à ce moment-là, et donc je me suis lancée là-dedans.
Mais c'était une manière d'anticiper un peu sur une problématique qui est devenue majeure, l'adaptation du vivant, et notamment des végétaux, au dérèglement climatique.
Alors là, vous avez parfaitement raison. À l'époque, on me disait, mais pourquoi tu travailles là-dessus à l'INRAE? Ça n'a aucune incidence au niveau national.
Ça, il y a une vingtaine d'années, ça, donc.
Même un peu plus. Ouais. Ça paraissait tout à fait... On me disait, bon, on te laisse faire ça, parce qu'en Corse, effectivement, on peut voir que ça peut avoir un intérêt, mais on ne voyait pas l'intérêt général. Alors j'ai continué parce qu'il me semblait que là, il y avait une problématique un peu générale. Donc avec pas mal d'étudiants, de collègues, etc., bien sûr, toute la recherche ne se fait jamais seule, on a beaucoup de collaborations dans le monde, hein, il faut le dire aussi, c'est aussi l'intérêt de la recherche d'ailleurs, d'avoir des contacts nombreux et féconds. Donc j'ai montré que ces espèces avaient plusieurs stratégies
d'adaptation.
Et donc, la première, bien sûr, c'est d'aller chercher de l'eau aussi, hein, comme toutes les autres plantes, donc d'éviter de se déshydrater. Et une seconde stratégie qui est tout à fait particulière à ces graminées, c'est qu'elles ont leur méristème, leur tissu qui donne des nouveaux tissus, donc les bourgeons, en fait. C'est les tissus à préserver à tout prix si on veut continuer à vivre plusieurs années, etc. Donc ces bourgeons, contrairement aux arbres, contrairement à plein d'espèces, ces bourgeons sont à la base des plantes. Ils sont à la base des plantes. Pourquoi ? Parce que pendant des millénaires, les herbacées ont été pâturées par les herbivores. Et donc, comme stratégie d'adaptation, elles ont enfoui leurs bourgeons en dessous de la dent de l'animal.
Pour les protéger des sabots, par exemple.
Et surtout des herbivores. Et donc, toutes les graminées ont leur méristème et leurs bourgeons tout en bas, ce qui permet aux populations les plus adaptées de tolérer mieux la déshydratation. Mais je voudrais parler aussi d'une adaptation particulière qui a été montrée depuis une cinquantaine d'années, qui s'appelle la dormance estivale.
Alors ce mot, je l'ai découvert il y a peu, dormance, c'est venu ça un peu dans les médias grand public. Alors c'est quoi la dormance ?
Alors la dormance, tout le monde connaît la dormance hivernale. On est d'ailleurs en automne, on voit que la plupart des plantes qui perdent leurs feuilles...
Est-ce qu'on peut le comparer, moins partiellement, à l'hibernation des animaux ?
Ah mais alors complètement, mais déjà, tout à fait. Mais je vous parle déjà de la dormance hivernale des plantes. Qu'est-ce que c'est la dormance hivernale des plantes ? Ça commence en ce moment. Toutes les arbres à feuilles caduques, donc qui tombent, deviennent oranges, jaunes, perdent leur chlorophylle. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ils se mettent en vie ralentie pendant l'hiver pour protéger les bourgeons.
Donc, pour assurer la pérennité de la plante.
Donc pour éviter surtout que le gel n'abîme les bourgeons et pour assurer absolument la pérennité puisqu'au printemps, ces bourgeons vont rééclore et redonner une nouvelle fructification, etc., foliaison. Et chez certaines espèces graminées, notamment des milieux secs, notamment au Maroc, qui viennent du Maroc, d'Afrique du Nord, mais aussi par ici, ces populations-là expriment une dormance estivale, c'est-à-dire qu'à l'inverse, elles commencent à se mettre en vie ralentie à la fin du printemps.
Avant que les grosses chaleurs arrivent.
Absolument. Donc c'est comme les arbres, donc les chênes de votre jardin ou du parc, qui se mettent déjà en vie ralentie avant qu'il y ait le moindre gel. Là, les plantes se mettent en vie ralentie avant les sécheresses et les hautes températures, ce qui leur permet de protéger complètement leurs bourgeons et de repartir à l'automne au lieu du printemps. Donc c'est très symétrique et inversé entre dormance estivale et hivernale. Et on est en train de regarder si les mécanismes moléculaires des deux types de dormance saisonnière sont similaires ou pas, etc. Et peut-être que je peux ajouter que ça a un intérêt, bien entendu, en recherche fondamentale.
Mais qu'est-ce qui s'ensuit, quoi ? Qu'est-ce qui peut s'en suivre ?
Mais ce que je veux dire aussi, c'est que cette adaptation de dormance reflète un principe écologique qui touche absolument tous les êtres vivants. Et ce principe, il est simple. C'est moins on pousse, moins on a une activité physiologique élevée, plus on va tolérer des stress. C'est pareil pour les humains.
D'accord, je vois.
Voilà.
Très bien.
Et voilà, alors donc après...
Alors, merci Florence, parce que bon, on a appris plein de choses, bien entendu, mais on a mesuré aussi votre enthousiasme, je dirais, avec lequel vous êtes engagé dans ce champ-là de votre travail, quoi. Alors on va prendre du recul, et comme j'ai indiqué au début, aborder la question de la place de la science dans la société française, dans le débat public, sur les questions majeures qui ont été évoquées, touchant à la santé, à l'alimentation et à la prise en compte du vivant. Donc en juillet 2017 a été lancé, un manifeste pour la liberté d'engagement des scientifiques, dont vous avez été rapidement une des signataires. Alors, de quelle analyse de la situation cette initiative résulte-t-elle? Et peut-on, pour le coup, la lire comme un cri d'appel à la liberté d'expression? Parce que le mot rébellion, il a quand même une forte charge. Quel était le déclic qui a conduit vous et un certain nombre de vos confrères et consoeurs à s'engager de la sorte?
Alors, je crois que par rapport à la liberté d'expression, dans les sciences dures, nous n'avons pas tellement de difficultés. C'est plutôt en sciences humaines ou dans certains champs, sur le genre, sur des sujets qui sont considérés comme un peu... politiquement difficilement correct selon les disciplines, là il peut y avoir des difficultés. Nous, à Scientifiques en Rébellion, on ne se bat pas uniquement pour la liberté d'expression, on se bat notamment, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, on a vraiment deux objectifs principaux, c'est alerter sur les consensus scientifiques, donc il n'y a pas une question de liberté d'expression, mais reconnaissance des consensus scientifiques par la société, c'est là où le bât blesse, et puis aussi lutter contre la désinformation. Donc là aussi c'est une question d'expression, il y a peut-être une libre expression de nombreuses forces sociales, mais l'important c'est de nous, en tant que scientifiques, de mettre à jour et d'éclairer sur ce qui nous paraît être des consensus scientifiques, donc des faits avérés.
Voilà, donc il y a une espèce de socle de savoir,
voilà.
Peu à peu, conforté, confirmé, parfois amendé, revu au fil des recherches. Et ce que vous dites, c'est que ce socle, il faut le prendre en compte en tant que tel, comme point d'appui au débat public, au choix des orientations politiques en matière d'accompagnement dans l'économie, par exemple, ou dans les choix plus personnels que chacun de nous peut faire. C'est, en gros, c'est là-dessus qu'on peut, encore une fois, installer, je dirais, ces décisions, pour le coup.
Absolument. Et c'est pour ça que la neutralité scientifique, rester dans son laboratoire, c'est bien, personne ne remet en question. Mais voyant j'aurais pu dire que donc, je travaille sur la survie des plantes à la sécheresse et que ce problème devient de plus en plus crucial en fonction dû au changement climatique. On parle de changement climatique, il s'agit plutôt de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, et avec des conséquences sur le milieu que tout le monde peut percevoir, en particulier à Montpellier. Donc ce fameux dérèglement climatique et n'est pas pris en compte à sa juste mesure dans le débat public, à notre avis, nous, scientifiques en rébellion. Mais c'est aussi le cas, par exemple, du sujet des pesticides, sur lequel je me suis emparée en particulier, où, pareil, la connaissance scientifique n'est pas suffisamment reconnue et valorisée dans le cadre de réglementations qui seraient plus contraignantes pour les acteurs économiques notamment.
Donc, on l'a vu, c'est à propos du débat sur la loi du temps il y a quelques semaines, quelques mois.
Absolument.
Et on a vu l'expression massive, plus de 2 millions de signatures de la pétition qui ont montré quand même une sensibilité ou une attention ou une vigilance de l'opinion sur ces questions. Et donc ça, me semble-t-il, cette expression forte de l'opinion des Français rejoignait les objectifs de scientifiques en rébellion.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avions mené depuis 2022 un certain nombre d'actions scientifiques en rébellion avec un grand nombre de collectifs qui travaillent sur ces sujets, notamment Printemps silencieux que nous avons mené en 2023 au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour dénoncer les pesticides, leur effet sur la santé, qui est extrêmement nocif, et sur la santé de tous les êtres vivants, en particulier les insectes et les oiseaux, puisque on sait que depuis 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la population des oiseaux des champs a régressé de 30%. La population des insectes volants a régressé de 60 à 80% en Europe. Ce sont des chiffres, moi, qui m'ont fait un électrochoc.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et donc, Dans le débat public, on dit qu'il y a plusieurs causes. Effectivement, il y a plusieurs causes. Hein. Le changement climatique, la diminution des habitats, les haies qui disparaissent dans les champs, etc. Mais un des facteurs qui est un peu ignoré, qui est un peu passé sous le tapis, c'est la question des pesticides. Les pesticides sont des produits chimiques de synthèse qui sont faits pour tuer. Ils sont faits pour tuer.
Tuer des espèces vivantes au profit de la productivité de l'agriculture.
Alors là, voilà, bien entendu. Et ce que je veux dire, donc, c'est que la recherche scientifique a fait des rapports, a produit un certain nombre de prospectives, d'informations très claires, qui montrent donc la nocivité de ces pesticides de synthèse pour l'environnement, la nocivité pour la santé. Hein. L'INSERM a fait un rapport très clair montrant les causalités, notamment de l'exposition du monde agricole, des professionnels agricoles, aux pesticides et la santé. Et troisièmement, il est montré aussi, il y a eu un rapport de prospective de 2023 de l'INRAE, dont on n'a pas assez parlé à mon avis, donc j'en profite pour en parler.
Allons-y.
On peut sortir des pesticides d'ici 2050, au moins, enfin, progressivement.
Par étapes,
il y a des modèles qui montrent que c'est tout à fait possible à l'échelle européenne. Donc l'agriculture européenne peut faire sa transition écologique sans réduire la souveraineté alimentaire de l'Europe.
Bien évidemment.
Parce que c'est chaque fois ce qui nous est opposé. Oh, on va
on
produire
est obligé
moins,
d'acheter
etc.,
des céréales,
etc.
Oui, bien sûr.
Eh bien, selon, en tout cas, ces rapports-là, qui sont très sérieux, qui sont faits avec des professionnels, il est montré qu'on peut se passer des pesticides chimiques, de synthèse, pesticides chimiques, progressivement, et éliminer le plus rapidement possible tous ceux qui sont très toxiques, d'ailleurs les plus cancérigènes, etc., neurotoxiques. Donc c'est possible. Donc moi je suis là aussi pour porter ce message, et nous sommes plus nombreux à Scientifiques en Rébellion à porter ce message. Il ne s'agit pas de militantisme, il s'agit de faire passer au niveau du grand public les résultats de la recherche.
Bien sûr. Alors ça, c'est bien sûr une des missions des chercheurs. Alors, vous l'avez évoqué, j'y reviens, c'est la désinformation. On voit bien que le débat public est très fortement déstructuré, dévié, parfois même détruit par les différentes formes de manipulation ou de désinformation. Exemple récent, des chercheurs ont récemment critiqué des ajouts dans un texte sur les pesticides, précisément d'une entité qui s'appelle le Commissariat à la Stratégie, en dépit des recommandations du Conseil scientifique, hein, qui était installé à côté de ce commissariat et qui était chargé de contrôler la rigueur factuelle de ce document. Alors, dans cette bataille, pour laisser sa place à la rationalité, au réel même, comment, selon vous, faut-il faire face à... C'est une question que chacun peut se poser,
oui.
Qu'il soit chercheur ou citoyen, hein, tout simplement.
Tout à fait. Bon, en tant que, comme je vous ai dit, nous, on essaye de fédérer l'ensemble des organisations, pas fédérer, mais d'être associés à l'ensemble des groupes, parce qu'il y a Agir pour l'environnement, il y a énormément de collectifs qui luttent pour que, notamment, cette question de pesticides soit reconnue. Et d'ailleurs, le gouvernement français a été condamné en juin 2023 pour l'évaluation des pesticides, qui est reconnu comme étant non conforme. Donc on est dans un système où c'est non conforme. Donc à titre, voilà, on peut tous se battre, rejoindre des collectifs, etc. À titre personnel et individuel, personnellement, et ayant été dans des stations agricoles où on balançait énormément de pesticides, j'ai opté depuis longtemps pour l'agriculture biologique, qui me paraît être le seul moyen, avec des techniques agroécologiques qui sont de plus en plus améliorées par la recherche. Hein, donc améliorer la diversité des plantes semées, etc. Donc il y a beaucoup de techniques qui paraît être la plus apte, ce type d'agriculture qui semble être le plus apte à favoriser une meilleure santé des consommateurs, ça a été démontré, moins de cancers, une meilleure santé de l'environnement et notamment une recrudescence de la biodiversité dans les fermes où l'agriculture biologique est mise en œuvre.
Alors on va en parler, ça sera l'objet du prochain rendez-vous de cette émission. J'aurai au micro, comme vous aujourd'hui, Magali Boissé, qui est la présidente du Civambio, qui travaille là-dessus dans l'Hérault sur ces questions, dont on va les reprendre par le détail, et vu du côté des producteurs précisément ce qui s'annonce tout à fait intéressant. Alors, vous l'avez évoqué là, bon, c'est un des points que j'ai relevé dans le manifeste, à l'origine de votre mobilisation, ce qu'on appelle la liberté académique. Alors, on ne sait pas toujours ce que c'est l'académie, ce grand principe qui semble être au fronton de nos grandes institutions scientifiques. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté académique et dans quelle mesure cette liberté est-elle menacée ?
Alors, il est clair que en Europe, Hongrie, Turquie, etc., dans des pays qui s'orientent de plus en plus vers des régimes illibéraux, comme ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est très clair, la science est attaquée. La science est attaquée, même en Allemagne. Et je voyais un reportage hier soir, les universitaires se liguent parce que si l'AFD, l'extrême droite, arrive au pouvoir, pareil, il y a un certain nombre de champs disciplinaires qui vont être attaqués.
Je vous coupe, c'est que ce phénomène, il ne se passe pas qu'aux États-Unis. Les vents mauvais qui soufflent c'est du ça. Côté des États-Unis soufflent aussi chez nous. Peut-être dans des proportions un peu moins graves, mais ces phénomènes-là, ils sont déjà là depuis quelque temps.
Ils sont déjà là. En tout cas, en France, on peut quand même encore s'exprimer à peu près. On peut parler des sujets. Je pense qu'il y a des études de genre qui sont autorisées. Il y a une résistance. On fait ce qu'on peut. Mais il faut sans arrêt, comme pour tous les droits acquis, il faut sans arrêt se battre pour éviter qu'ils soient menacés. Qu'on aille en arrière. C'est vrai, je dois dire que dans mon propre champ de recherche, je ne souffre pas de ces problèmes-là. Ce que mes collègues souffrent, certains, je parle notamment d'une collègue dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle a été attaquée personnellement sur les réseaux, etc., parce que justement, elle est éco-toxicologue et elle a travaillé sur l'impact des pesticides. Elle fait face à des lobbies très puissants parce que pourquoi les pesticides, il y a beaucoup de fake news, etc. C'est parce que ce sont des milliards de bénéfices chaque année.
Des enjeux économiques énormes.
70 000 tonnes de pesticides chimiques sont déversées chaque année en France. Et donc, il y a des enjeux voilà, très, très forts. Et donc, tous ceux qui, par leur recherche, montrent que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire ou que ça pose problème, sont menacés. Et même des journalistes, d'ailleurs, qui ont des problèmes.
Alors, ça sera ma dernière question, mais un peu dans le prolongement de ce que nous avons évoqué. Bon, je la pose souvent à la fin des échanges que je propose. Dans l'univers où vous évoluez, quelle est l'idée reçue, l'affirmation péremptoire que vous rencontrez souvent et qui vous exaspère ?
Je vous remercie pour cette question qui me paraît très intéressante. Je voudrais parler du terme écologie punitive.
Entre guillemets. Hein,
entre guillemets, qu'on est que pas mal de... Enfin, dans les médias, on peut entendre assez souvent, qui me paraît être un terme malhonnête et perverti au sens propre, c'est-à-dire qui renverse le problème. Parce que qu'est-ce qui est punitif ? Quand vous avez à Montpellier, dans tout le sud de la France, sans parler de l'Espagne, Afrique du Nord, etc., et même partout en France, des personnes qui travaillent sous des chaleurs de plus de 35 degrés, des personnes qui vivent dans des appartements en plein soleil, sans isolation, etc., c'est quoi qui est punitif ? C'est le dérèglement climatique qui est punitif. Donc, effectivement, il faut changer de système, il faut aller vers quelque chose qui attaque à la racine le problème du changement climatique, il faut limiter les émissions, et ce n'est pas une écologie punitive si, et là j'insiste bien, si on ne fait pas porter le fardeau sur les gens qui n'ont pas contribué à ces émissions. Parce qu'on sait...
Il y a souvent des gens d'ailleurs qui sont les plus touchés. Exactement. Et les moins à même d'avoir les moyens de faire face.
Les chiffres sont clairs, 10% de la population mondiale produit 2/3 des émissions. Hein. Donc c'est sur ces 10% qu'il faut qu'il y ait des nouvelles réglementations pour limiter les émissions et que ça ne touche pas les victimes actuelles du changement climatique. Notamment. Oui. Voilà.
Non, ne parlons plus d'écologie punitive. Florence Zoller, je vous remercie beaucoup de
Merci
votre
beaucoup,
contribution
Alain.
À la bonne compréhension de ces sujets par les auditrices et les auditeurs. À une prochaine fois.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.